Vous écoutez
RMC.
RMC.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Pierre Dorian.
Intégrale Coupe du Monde, l'After Live en direct de Dopo, le restaurant de l'After, au minimum jusqu'à 2h du matin. On est avec Daniel Riolo, avec Eric Dimeco, avec Jean-Michel Larquet. Messieurs, nous allons tout de suite retrouver Valentin Jamin sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborough, puisque les Bleus sont en train de reconnaître la pelouse à la suite des Marocains. Valentin ?
Ils sont arrivés, tout à fait. Alors, à l'inverse des Marocains, là, on n'est pas sur l'effectif entier. C'est seulement des joueurs qui viennent un par un. Manu Koné a été le premier. Veste, alors, c'est la veste verte, hein, couleur un petit peu Statue de la Liberté, qui était là et qui devrait être titulaire. Manu Koné avec Marnes Akliouche qui est là également. Et Ryan Cherki vient d'arriver. On attend le reste de l'effectif et le staff emmené par Didier Deschamps avec Guy Stéphane, Cyril Moine, le préparateur physique, et Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, est venu succinctement un peu plus qu'à New York, notamment, où la pelouse posait problème. Là, ce n'est pas le cas. À Boston, hein. On est sur une pelouse qualitative, donc ils sont venus jauger un petit peu les tribunes et le staff est déjà reparti. Donc on attend un petit peu plus de joueurs qui vont arriver au fur et à mesure. Et il y a eu des images sympas dans les couloirs où Marocains et Français se sont croisés. On sait qu'il y a beaucoup de liens et notamment une accolade entre Maignan et Bono, les deux gardiens qui seront très importants bien évidemment ce soir.
Évidemment, oui, Maignan Bounou, ce sera un des duels. Alors les duels, on va en parler, mais il y a notamment un duel de milieu de terrain. Quelle est la clé du match? Quel est le rapport de force? Daniel disait tout à l'heure, je vois pas un monde dans lequel les Bleus sont pas supérieurs au Maroc. On va accueillir Jean-Baptiste tout de suite au 32-16. Salut Jean-Baptiste.
Bonsoir à tous.
Salut Jean-Baptiste.
Salut Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste, tu es très confiant pour les Bleus.
Oui, je suis confiant. Vous avez élargi le débat et vous avez tous raison dans ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Moi, je vais juste rajouter une chose concernant le débat Doué-Barcola. Je pense que Doué, s'il est titulaire, c'est avant tout parce qu'il est capable aussi de faire cette passe entre les défenseurs pour aller chercher de la profondeur et éventuellement faire en sorte qu'Hakimi soit toujours derrière. Parce que ce qui va se passer, c'est que si on mène au score, les Marocains vont devoir se découvrir et c'est là dans un deuxième temps qu'il fera rentrer Barcola pour essayer justement de remettre de la contre-attaque, de la vitesse en transition. Et puis il faut pas oublier que Barcola, si je ne m'abuse, je crois qu'il a un jaune. Donc si Deschamps il le fait jouer et qu'il passe son temps à essayer de combler les montées d'Hakimi un peu à défendre, bah, il peut prendre le risque d'avoir un carton jaune. Donc à vérifier, mais il me semblait que Barcola il a déjà un jaune. Donc effectivement, tous ces arguments font que peut-être que Deschamps se dit je vais commencer avec Doué sur le terrain. Maintenant, oui, je suis très confiant. Je suis très confiant. Derrière, c'est pas Saliba ou pas Mécano, donc c'est pour ça que je dis qu'ils peuvent avoir des problèmes dans le dos. Et je vois pas franchement l'équipe de France perdre. Maintenant, on n'est pas à l'abri de tomber dans un match bourbier. Hein. Le foot, il est comme ça. On peut. Moi, j'ai.
Pour l'instant, les Bleus n'ont pas. Il faut quand même le dire. On arrive en quart de finale. Les Bleus n'ont pas eu un seul match compliqué. Exactement. Je ne considère pas que le match contre le Paraguay était compliqué, puisque même si on a mis du temps à marquer, personnellement, je n'ai jamais douté qu'on le ferait. Et dans la difficulté, je n'ai même pas vu les Paraguayens capables de nous mettre un contre un peu assassin auquel on n'aurait pas pu répondre. Donc ce match était moche, dégueulasse, mais il n'était pas compliqué au sens footballistique du terme, selon moi. Donc on arrive en quart de finale, les Français sont encore frais, ils sont encore dans leur mantra, mission, avec toujours des joueurs offensifs, qu'on le sait tous, très forts techniquement, tactiquement. Enfin, le quatuor offensif qu'on a, vraiment, il est incroyable. Et en demi-finale, si on est contre l'Espagne et contre je ne sais pas qui en finale qui sortira de l'autre côté du tableau, là, j'estime qu'on aura des adversaires. Comment dire, non pas qu'il faut pas regarder dans les yeux le Maroc, attention, c'est pas du tout ça que je dis, mais qui véritablement me sembleront à la hauteur de notre niveau. Et il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, aucune offense, véritablement, j'espère qu'on se comprend bien. Mais là, je pense qu'on est encore supérieur.
Cela dit, pour modérer ton enthousiasme et ton optimisme, j'aimerais être optimiste et comme toi, et tu as raison, Daniel, il n'y a pas de souci. Je dirais quand même que pour réussir la mission qui est fixée et que tu leur fixes de manière assez péremptoire, Daniel, puisque tu dis qu'ils vont se qualifier, reste, Daniel, que pour battre ce Maroc que j'ai vu dernièrement, il ne faudra pas faire un match moyen.
Ce soir, il y a une grosse opposition,
d'accord.
Daniel.
Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir, encore élever le niveau de jeu. Mais face à une équipe qui joue, qui a des bons techniciens au milieu, qui va forcément nous poser des soucis à un moment ou à un autre, je pense que nous avons des atouts qui, à tout moment, peuvent faire la différence. Attention, le foot, on sait le sport capricieux que ça peut être, le scénario rocambolesque dans le foot, ça arrive, le carton rouge pris trop tôt, ça, la blessure au mauvais moment, non mais moi je ne vois que des événements de ce genre-là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On va dire, j'allais dire à la loyale, je sais pas si c'est la bonne expression, mais dans un match où il ne se passe pas un truc un peu fou, si ça bascule dans la folie, alors ok, mais sinon je ne vois pas, je ne vois pas par quel bout je peux prendre le match pour m'imaginer une défaite.
Bien que l'issue ait été favorable à l'Argentine, à la mi-temps, quand je vois le pénalty manqué et la frappe sur le poteau, je me dis, ça passera pas pour l'Argentine, hein, tu vois, parce que.
Mais je ne me mets pas dans la même catégorie que l'Argentine. Je ne vois pas les choses de cette. Même si, évidemment, on aurait tous mis la maison sur l'Argentine contre l'Égypte et on a manqué d'être très, très surpris. Mais je ne pense pas que ce soit exactement la même chose là. Je vois les Français plus sereins.
C'est surtout que notre équipe préfère quand en face ça joue, même si on risque d'être en danger, bien sûr, et que on ne sera sûrement un peu plus en difficulté. Nous, on préfère quand ça joue en face. Le pire, c'est le Paraguay, parce que bon, le Paraguay c'est particulier, mais une équipe qui nous attend, qui met bloc bas devant les 18 mètres et qui resserre les espaces, ben on a souvent été en difficulté. Et à la limite, contre ces équipes-là, que tu es 3 ou 4 attaquants, tu as les mêmes problèmes. C'est souvent gommé parce que on a de tels talents que un penalty, un exploit individuel ou une combinaison majestueuse comme on a pu voir depuis le début de la compétition, parce que devant on a l'impression que ça commence à bien s'entendre. Tu sais que ça va passer, mais tu sais que tu peux galérer. Quand ça joue en face, je pense qu'on a plus de facilité à mettre en danger l'adversaire. Donc c'est pour ça que ce match-là me paraît peut-être un peu plus fait pour nous. Mais
alors on va retrouver Jean-Louis au Foxborough, au Gillette Stadium, parce que Jean-Louis a la feuille de match de la FIFA officielle.
C'est Monsieur Infantino qui lui a donné, il paraît.
Ah bah il me l'a donné personnellement. T'as tout compris.
C'est le stagiaire de Jean-Louis Tour, Gianni Infantino.
Ouais, exactement. Bon, il n'y a pas de surprise côté bleu. Hein. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, depuis hier sur rmcsport.fr. Donc, Maignan dans les buts. Défense de gauche à droite, Digne, Upamecano, Saliba, Koundé. Milieu de terrain avec Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni et sur le banc. Et le quatuor, Dembélé, Olise, Désiré Doué et Kylian Mbappé. Et comme je vous le disais, Tchouaméni est bien sur le banc. Et côté marocain, attention, Mohamed Bouabi a tenté quelque chose. Donc, Yacine Bounou dans les buts. Défense à 4 avec Hakimi, Mazraoui et Diop en défense centrale et Salah Eddine sur le côté gauche. Donc pas de Shadi Riyad en défense centrale. Milieu de terrain renforcé avec Bouadi, avec El Ainaoui, avec Unai. Sur les côtés, Talbi qui sera titulaire et El Ranous. Et le seul attaquant qui va jouer en faux neuf, c'est Brahim Diaz. Donc pas de vrai neuf comme aurait pu l'être Raimi à la place de Saïbari. Mais à mon avis, c'est Brahim Diaz qui va jouer dans cette position de faux neuf.
Ok. Ouais,
donc les compos, on voit quoi comme message? Le message qui est envoyé quand même, c'est que au Maroc, on s'est un peu cassé la tête pour savoir comment jouer contre les Bleus, alors que les Bleus ne se sont pas cassés la tête. Ils ont dit, on continue comme on sait faire.
Le message aussi, c'est que c'est, je pense, assez prudent.
Oui, mais
moins
ça,
offensif, ça moins vient, ambitieux dans le jeu.
J'allais y venir. Le message, c'est quand même, on vous redoute. Alors que les Français n'envoient pas ce message-là. Alors le coup tactique, évidemment, ça existe dans le foot et tant mieux que les entraîneurs essayent de trouver des solutions. C'est un message de prudence. On renforce le milieu de terrain on change la défense, ça veut dire qu'on n'a pas confiance, on ne se sentait pas assez fort avec la défense d'avant. On renforce un milieu, mais hyper renforcé, parce qu'il n'y a même plus de numéro 9. Parce que Diaz, c'est quelqu'un qui va essayer de garder le ballon. On va essayer de garder le ballon. On va mettre beaucoup d'impact au milieu. On va essayer de mettre beaucoup d'impact au milieu et de sans arrêt être là au pressing pour tout le temps avoir le ballon ou en tout cas le récupérer le plus vite possible. Et je sais pas quel genre de match ça peut donner. Ça peut donner un match un peu fermé au final quand même. Hein.
Alors on va aussi se poser des questions sur le milieu de terrain marocain, parce que c'est vrai que c'est leur grande force. Avec cette compo Daniel, c'est vrai que ça peut peut-être un peu plus fermer. Et il y a quelqu'un qui va passer une soirée très très particulière à Creil, en banlieue parisienne. Le président du club, Slimane Layadi, est en direct avec nous et on va l'accueillir tout de suite avec un grand plaisir. Bonjour Slimane.
Bonjour à tous.
Slimane, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Oui, Slimane, qui était le président du petit Ayoub Ouahdi. C'est vous qui l'avez vu démarrer à 6 ans, Ayoub Ouahdi.
C'est exactement ça. Depuis ses 5 ans, lors de la saison, c'était de ses débuts en école de foot, à Creil.
Avant de parler du match de Ayoub, à Creil, le cœur va pencher de quel côté? Côté Ouahdi ou côté équipe de France?
Alors, je pense que ça sera très partagé. C'est vrai qu'on a une très grande communauté marocaine vivante à Creil, mais je pense que ça va être très partagé et que le meilleur gagne sur cette rencontre.
Vous êtes toujours en contact avec Ayoub et particulièrement pendant cette Coupe du Monde?
Alors oui, plutôt avec son papa qui a été très proche du club depuis des années, depuis ses débuts. Il était manager au sport, donc il était très proche du club. Et on a vu évoluer son fils depuis toutes ces années et évoluer et passer des caps.
Alors qu'est-ce qui vous a dit avant ce France-Maroc? C'est quoi l'état d'esprit d'Ayoub et des Marocains là?
Ah ben là aujourd'hui, c'est que toutes les deux équipes donnent le maximum pour pouvoir remporter cette rencontre et aller le plus loin possible dans la compétition.
Et mais pour eux, Ayoub, je veux dire, vraiment, ils sentent un coup possible face à la France?
Alors eux, de toute façon, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir l'entourage d'Ayoub, mais c'est des gens d'une très grande humilité. Hein. Donc aujourd'hui, ils se positionnent surtout sur le fait de participer et de remporter la rencontre.
Bon, Slimane, on va parler du garçon quand même. Quelle Coupe du Monde il est en train de faire? Il est en train d'exploser à la phase du foot mondial là.
Alors nous, c'est vrai qu'à l'AFC Creil, donc on suit Ayoub depuis ses débuts dans toutes les sélections en équipe de France et depuis également donc sa sélection avec l'équipe du Maroc. Aujourd'hui, il démarre sur les chapeaux de roue face au Brésil et il démontre face à toute la planète, il montre son talent qu'on a connu depuis ses débuts.
Merci beaucoup Slimane, on sent beaucoup d'émotion chez vous. Et
bonne soirée chez vous.
On sent que le match va être très particulier. Hein. Merci encore.
Bah écoutez, que le meilleur gagne, merci à vous.
Que le meilleur gagne. Eric, le milieu de terrain du Maroc, est-ce que...
Moi, ça m'intéresse ce qu'il tente quand même. Moi, je trouve ça intéressant ce qu'il tente. Pardon, Eric. Non, mais je vais pas aller plus loin. Je vais laisser parler Eric. Je voulais juste dire que je trouve que c'est quand même très intéressant de tenter ça.
Oui. Et puis, avant de parler du milieu, le repositionnement de Masraoui dans l'axe, c'est important quand même parce que dans son couloir, c'est une référence. Pour moi, hein, il le met en défense centrale parce que il peut peut-être lutter avec la vitesse de Mbappé. D'après moi, c'est la présence d'Mbappé qui fait changer les plans du coach, notamment en défense centrale. Ensuite, contre une équipe de France où tu as un tel potentiel offensif, tu peux être tenté aussi de mettre du monde à l'endroit où les ballons vont partir pour aller vers les attaquants, pour essayer de couper les lignes. Voilà. Et peut-être justement mettre le bloc un peu moins haut avec des joueurs dans le milieu de terrain capables de laisser et de combler beaucoup d'espace. C'est-à-dire que le match qu'on espérait tout à l'heure voir avec une équipe qui va jouer et qui va peut-être nous permettre d'avoir un peu plus de facilité offensive, c'est peut-être pas ce match-là qu'on va assister et on va peut-être avoir une équipe du Maroc un peu comme il y a 4 ans qui va nous poser des problèmes parce que très regroupée, très organisée. Ouais.
Est-ce que c'est le profil de ces joueurs-là, Jean-Michel?
Ah, mais c'est pas le profil forcément bétonné. Attention, c'est que des joueurs techniques au milieu. Donc c'est aussi lutter pour la conquête du ballon. Après, je ne sais pas trop qui ils vont lancer une fois qu'ils l'auront récupéré, puisqu'ils sont beaucoup au milieu. Mais si le bloc est bien compact, attention, ça peut vraiment emmerder les Français. Je suis intéressé par cette compo.
Mais renforcer le milieu de terrain, évidemment qu'il y a une forme d'adaptation à une éventuelle domination des Français. Comme le disait Daniel, il y a une équipe qui s'adapte et une équipe qui va jouer ce qu'elle fait actuellement. Ouais. Bon, ça c'est sûr. Mais la différence, messieurs, c'est que vous oubliez quand même que dans ce milieu du terrain, il y a beaucoup de joueurs, et notamment un, là, mais des joueurs qui marquent beaucoup de buts. Le dernier doublé de Unai en est le symbole. C'est quand même, c'est une équipe où les milieux de terrain, je l'avais remarqué plusieurs fois, se projettent beaucoup vers l'avant. Hein. Donc, ne pensez pas que quand il y aura une occasion, ils vont tous rester prudemment à se regarder. Tu y vas ou tu y vas pas, j'y vais, ceci, cela. Moi, j'ai vu quand même des garçons énormément se projeter vers l'avant et tenter leur chance, notamment sur le dernier match où Unai marque deux buts remarquables sur le plan technique. Alors, certes, il y a une prudence au départ, mais ce serait malvenu de ne pas être très attentif à la projection de ces milieux de terrain vers le...
Moi, je suis absolument d'accord avec toi, Jean-Michel. Je pense que c'est ça l'idée. C'est d'être très compact au milieu et effectivement que notamment les joueurs sur le côté, que ça parte très vite, qu'il y ait des projections très vite justement de ces milieux de terrain. C'est-à-dire, à défaut d'avoir une grosse ligne d'attaque, et puisqu'il n'avait pas d'attaquant, le coach a trouvé cette solution, et je le répète pour la 10e fois, ça, je suis très intéressé par ce plan de jeu. Vraiment, je trouve que là, il y a quelque chose de malin qui est tenté. Et
Daniel, allez, on est en direct de Dopo.
Pardon, Jean-Louis. Non, je pense que celui qui peut prendre la profondeur côté marocain, c'est Talbi, qui a clairement ce profil-là, exactement. En partant du côté gauche et en rentrant dans l'axe. À mon avis, ce sera lui. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est une réponse quand même dans la aussi conservation de balle. Hein. S'il y a autant de milieux de terrain, autant de joueurs de ballon, c'est qu'il s'est dit, plutôt que de bétonner, par exemple, avec une défense à 5, on va plutôt essayer possession. De leur tenir le ballon le plus possible.
On attend direct de dos pour le restant de l'after, au minimum jusqu'à 2h du matin pour ce France-Maroc quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Sur RMC, le rapport de force, le combat tactique, on continue d'en parler avec vous au 32-16. Daniel Riolo, Eric Dimeco et Jean-Michel Larquet avec bien sûr Jean-Louis Tourostade à Foxborough. À tout de suite.
Et encore un ballon récupéré par les Bleus avec Mbappé. La transversale de Mbappé vers Ousmane Dembélé qui va rentrer dans la surface de réparation. Lancé, la fin de frappe, la frappe du droit. But ! Ousmane Dembélé. Attention à ce ballon en profondeur pour Saïbari, la frappe de Saïbari, but ! L'ouverture du score pour le Maroc !
RMC, After Live, intégrale Coupe du Monde,
Pierre Dorian.
After Live intégrale Coupe du Monde en direct de Dopo, le restaurant de l'After avec Daniel Riolo, avec Eric Dimeco, avec Jean-Michel Larquet, Jean-Louis Touretto Stade à Foxborough, le Gillette Stadium, donc dans un peu plus d'une heure, dans 1h12, c'est le coup d'envoi de ce quart de finale de Coupe du Monde France-Maroc. Et on est en train de débattre de l'option tactique, j'allais dire du coup, mais c'est pas vraiment un coup. C'est
le
juste
coup,
un
c'est
choix.
À la fin. Exactement. Si jamais ça marche, ça devient un coup.
Oui, du choix de Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc. Jean-Louis, tu peux nous rappeler, pour ceux qui arrivent, non pas les compos complètes, hein, mais ce qu'a préparé le sélectionneur du Maroc pour cette rencontre.
Ouais. Alors, écoute, déjà, il y a deux trucs importants. Bounou dans les buts, c'est la défense centrale déjà. C'est-à-dire que Shadi Riad, qui a commencé la Coupe du Monde aux côtés d'Issa Diop, est remplaçant. Il y a déjà un match où il n'avait pas joué, mais il était touché, il était blessé. Donc, à voir si sa blessure s'est pas réveillée. En tout cas, on a fait le choix de l'expérience avec Issa Diop et Mazraoui, qui joue d'habitude sur le côté gauche, qui est d'ailleurs arrière-droit de formation, mais comme Hakimi est là, il joue à gauche en sélection, et là, il va même dépanner dans l'axe. Ça a été le cas également dans une partie du match face au Brésil. Donc, défense centrale, Diop, Mazraoui, et Salah Eddine, qui est un bon arrière-gauche aussi, pour compléter la défense à 4. Et pour le reste, donc, c'est un milieu de terrain,
renforcé.
Renforcé, voilà le mot que je n'avais pas. Donc, El Aïnaoui Bouadi devant la défense, ça bouge pas. Unai juste devant eux, ça ne bouge pas non plus. En revanche, sur l'animation du trio devant, pas de Saïbari, remplacé par Brahim Diaz, comme nous l'ont confirmé les confrères marocains, en faux numéro 9, avec Talbi à gauche et El Ranous, qui a fait toute la Coupe du Monde à gauche, qui va jouer sur le côté droit.
Talbi, rappelle-nous un peu le profil de ce joueur, Jean-Louis.
Écoute, Chemzin Talbi, c'est un joueur déjà capable de prendre de la vitesse. C'est lui qui fait la passe décisive à Issa Diop contre les Pays-Bas pour aller chercher la prolongation. Donc il est habitué à partir de son côté gauche, à avoir une capacité de percussion, plutôt balle au pied. Mais moi, je serais pas étonné que le joueur de Sunderland, qui a 21 ans, qui est jeune, soit choisi comme le joueur capable de prendre la profondeur si à un moment donné il faut chercher à allonger un peu après être parvenu à sortir le ballon proprement côté marocain.
Alors après, qu'est-ce que ça change pour nous? Parce que nous, on a notre plan de jeu. Je veux dire, il est très identifié. Les joueurs sont très à l'aise dedans. Didier Deschamps va évidemment analyser cette compo de son homologue Wabi. Mais pour nous, finalement, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche tactique de ce match, Eric?
Ah ben, écoute, tout à l'heure, on a parlé de la difficulté de l'équipe de France contre les blocs bas et les équipes bien regroupées. Donc, bien sûr que ça change quelque chose. En tout cas, moi, je trouve que ça change quelque chose et que le coach marocain tente ce coup-là pour jouer sur nos faiblesses, entre guillemets. Sur ce qu'on aime le moins, quoi. Voilà. C'est-à-dire une équipe.
Moi, je pense qu'il veut taper sur les côtés parce que on dit que les couloirs vont être renforcés et tout. Mais en fait, ça peut surtout permettre à, notamment, Hakimi d'être un peu déchargé défensivement. Il pourrait être un peu couvert et lui pourrait monter et essayer de percuter le plus possible.
Ça n'empêche pas quand ils vont récupérer le ballon, bien sûr qu'ils ne vont pas nous attendre derrière. Ils vont jouer justement en transition. C'est le choix. Mais quand tu fais ce premier choix-là, c'est pour gêner l'adversaire. C'est pas pour te ah oui. Il me semble. Hein. Voilà. Donc bien sûr que ça change pour nous. Je ne sais pas si ça va marcher, mais pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Je préférais.
Dire c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu aimes ce plan. Tu trouves que ce plan réduit un petit peu.
Moi, si tu veux. Si tu
moi, c'est mon avis, en tout cas. Je trouve que ce plan m'intéresse beaucoup et ça règle. Ben, je voyais les bleus, je l'ai dit, mais avec cette compo, je vois toujours les bleus, bien sûr, hein, mais plus emmerdés.
Mais c'est parce que moi je pensais que le Maroc qu'on a vu depuis le début de la compétition un petit peu plus équilibré déséquilibré vers l'avant
sa chance,
m'inquiétait moins que cette compo là parce que je pense qu'on est moins à l'aise contre ces équipes des équipes organisées comme ça.
Jean-Michel.
Oui, enfin incontestablement il a musclé, comme dirait Aimé Jacquet, son milieu de terrain. Mais vous savez, le milieu de terrain, là, on a presque l'impression qu'il serait plutôt 4 du côté marocain et 2 et demi du côté français, puisque Olise est un milieu de terrain très 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 offensif. Encore que, je pense que c'est un milieu de terrain qui remplit totalement son rôle. Mais vous savez, c'est un petit peu comme cette idée reçue de dire toujours. On va aligner plusieurs attaquants et ça nous permettra de marquer des buts.
De marquer plus de buts.
Ouais. Ce qui est une bêtise incommensurable.
Bien sûr.
Ce n'est pas forcément en renforçant quantitativement son milieu de terrain, ton milieu de terrain, que tu vas aussi avoir la maîtrise du jeu. Parce qu'il y a au milieu de terrain, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Si tu mets 5 milieux de terrain, ils vont se marcher sur les arpions. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que la seule petite adaptation que va demander Didier Deschamps à Olise et peut-être à ces deux hommes de couloir, c'est évidemment de faire attention aux montées d'Hakimi pour Doué. Et à Olise et à Dembélé d'être un petit peu plus actif, un petit peu plus attentif au repli défensif. Voilà, je pense.
Et puisque tu en as parlé, puisque
ça doit se borner à ça.
Oui, puisque tu as évoqué son nom, Jean-Michel, tu as parlé d'Olise. On a beaucoup dit dans le début de la compétition que c'était le retour du 10 et on a beaucoup aimé le retour du 10, du joueur un peu à l'ancienne, libre au milieu de terrain. Rappelons quand même, tout le monde le sait, mais on va le redire, que si ce poste, comme on l'aimait quand on était jeune, a disparu, c'est parce que désormais, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de pression au milieu de terrain et que le 10 ayant moins de confort, soit il a disparu, soit il a reculé sur le terrain. Olise, qui est donc notre nouveau 10, avec cet afflux de joueurs au milieu, peut être bien plus emmerdé pour organiser le jeu de l'équipe de France. Il va y avoir embouteillage,
il y aura davantage de travail, tu as raison. Oui,
c'est peut-être aussi pour ça que le coach marocain l'a fait. C'est probablement pour contrecarrer Olise, qui est un peu le joueur vedette depuis le début de la compète, celui qui a attiré tous les regards parce qu'il a, semble-t-il, réinventé un poste qu'on avait un peu oublié. quand tu as moins de confort, le 10 a moins de temps, avec moins de temps, même quand tu es un top joueur, c'est le temps qui fait la différence en fait dans le football. Quand tu as moins de temps, t'orientes moins, tu dribbles moins vite, tu fais tout moins vite.
Mais attention, parce que le naturel revient au galop. Cette équipe du Maroc, elle est joueuse. Moi, je n'imagine pas un plan réellement cadenassé avec des contres et des flèches sur les côtés. Je pense que ce milieu de terrain.
Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit que plus de monde, ça fera moins.
Ça me... qu'essayer d'avoir le ballon.
Je et Pierre, pense j'ai pas dit ça. Tenter. J'ai dit Pierre, que forcément, il y a moins de place et moins de confort pour Olivier.
Jean-Michel.
Pierrot, tous les changements tactiques, enfin, tous les changements de poste qu'a instauré, qu'a créé l'entraîneur, ça veut bien dire quand même qu'il a une idée derrière la tête. C'est oui, effectivement, c'est pas le Maroc qui va imposer son jeu. Il est là pour d'abord troubler le jeu français et ensuite profiter de la moindre occasion. Mais on sent quand même que l'idée première, c'est pas d'imposer son jeu, Pierrot. Bah,
il y a quand même le truc auquel il n'a pas touché, c'est la composition de son milieu de terrain. C'est-à-dire El Aïnaoui, Boadi et Ounaï. Ah,
les hommes sont là.
Ils seront là. Hein. Et ça, pour Pierrot, c'est vraiment l'identité de jeu du Maroc.
Ouais. Ouais, Eric. Je comprends pas. C'est pas parce que tu mets un milieu de terrain de plus que tu ne veux pas attaquer. Il y a plein d'exemples d'équipes qui ont que trois attaquants sur le terrain et qui sont très offensives. Et même, ça peut même te permettre de chasser haut. On va pas faire des comparaisons de choses incomparables, mais on est d'accord que les trois milieux du PSG ne sont pas des attaquants. Mm-hmm. On est d'accord. Il y a trois attaquants au PSG. On est d'accord. Et pourtant, ils ont toujours le ballon et ils récupèrent le ballon de très haut. Donc, c'est pas parce que tu as que trois attaquants sur le terrain que tu es moins offensif que quatre. Ben oui. C'est juste que en ayant des joueurs qui sont plus disciplinés dans le repli, voire même dans tout ce qui fait une équipe qui défend bien, c'est-à-dire tout ce qui la manière de coulisser, la manière de compenser, ben milieu terrain quand même plus apte à faire ça qu'un attaquant. Donc c'est ce parti pris qui est fait, mais ça, c'est pas pour ça qu'ils vont pas nous embêter offensivement les Marocains. À aucun moment on a cru ça.